Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir avec Anastasia Spirenkova de la rédaction russe.
Bonsoir.
Vous nous donnerez des détails sur cet accord de partenariat stratégique qui vient d'être signé par Moscou et Téhéran. Pour la rédaction en anglais, Mélissa Chemam.
Good evening.
Pour nous parler de l'exploitation illégale des minerais en République démocratique du Congo. Et Tim Bimba de la rédaction Fulfulde.
Philippe Salminam.
Vous êtes en ligne du Sénégal. Pour nous, il sera question de l'avancée des mouvements djihadistes vers les pays côtiers, dont le Bénin, après l'attaque du 8 janvier dernier. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est bien sûr l'accord entre le Hamas et Israël qui devrait mettre fin à 15 mois de guerre. Dernière info en date, le cabinet de sécurité israélien donne son feu vert à cet accord de trêve à Gaza. Mélissa, les réactions sont très nombreuses dans le monde. Quelles sont celles du monde humanitaire ?
Oui, c'est un point important. Je vais commencer par Amnesty International qui a écrit « Le cessez-le-feu tant attendu ne réparera pas les vies des Palestiniens et Palestiniennes brisées par le génocide israélien à Gaza ». Ce sont les mots d'Agnès Callamard, la secrétaire générale de l'association. La nouvelle de la conclusion d'un accord de cessez-le-feu apportera une lueur de soulagement aux victimes. Mais cet accord s'est cruellement fait attendre. Elle a salué la perspective de libération des otages et des prisonniers, mais aussi rappeler que ce blocus illégal par Israël à Gaza, s'il n'est pas rapidement levé, les souffrances vont perdurer.
Et que dit Human Rights Watch maintenant ?
Alors je cite Kenneth Ross, qui a été le directeur d'Human Rights Watch et qui est professeur de droit international. Pour lui, il est évident qu'on peut se réjouir, mais de la même façon, les civils palestiniens n'auront pas à subir des bombardements réguliers, on l'espère, si le cessez-le-feu démarre lundi, mais il reste la famine, la privation, etc., etc. Et il pose une question, cependant, pourquoi cela a-t-il pris autant de temps d'en arriver là ? Il a écrit dans le magazine américain Time, et pour lui, il cible le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui a régulièrement modifié les conditions du dialogue, alors qu'on l'a répété, l'accord était le même il y a des mois.
Le rôle des États-Unis maintenant dans cette médiation, c'est un sujet de discussion. Les rivalités entre les équipes de Biden et Trump sont soulignées.
Oui, c'est ce qui occupe la presse. Vous l'avez sûrement abordé dans les journaux.
Absolument.
Ces rivalités, deux équipes, donc ce timing déjà qui montre forcément que le retour imminent de Donald Trump à la Maison-Blanche a dû peser. On le rappelle, il avait menacé de créer l'enfer si cet accord n'était pas abouti. Ce que l'on sait, c'est qu'il a mis en place un émissaire pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et ce dernier prétend avoir eu un rôle clé, avoir collaboré avec l'équipe du président sortant Biden. Selon Kenneth Ross, toujours, Netanyahou semble avoir utilisé cette menace de Trump pour son timing, notamment pour contrecarrer ses équipes à l'extrême droite. Reste à savoir si ce prétexte, ce jonglage pro-Trump fonctionnera sur le long terme et si cela pourra apporter un vrai soulagement sur place.
Alors, cet accord a été rendu donc possible grâce à la médiation des États-Unis, du Qatar aussi, de l'Égypte. Et c'est un soulagement pour beaucoup. Ibrahima Timba, parmi ceux qui saluent cet accord, il y a des acteurs de la société civile africaine et ils s'étaient fait entendre pour exiger l'arrêt de ce conflit.
Côté politique, de nombreux chefs d'État africains n'ont pas haussé le ton pour condamner la tragédie qu'a vécu le peuple palestinien durant ces 15 derniers mois. Plusieurs acteurs de la société civile africaine se sont fait entendre pour exiger l'arrêt des bombardements israéliens responsables de la mort, nous le savons, des milliers de civils palestiniens. Au Sénégal, par exemple, plusieurs actions ont été menées par les mouvements de soutien au peuple palestinien. L'on se rappelle de cette manifestation qui a rassemblé des milliers de personnes à Dakar. C'était le 31 août dernier. Ces acteurs de la société civile africaine ont toujours déploré le silence de certains responsables du continent, mais aussi, je cite, le manque d'engagement de certains États de la Ligue arabe auprès de la Palestine. Parmi ces voix donc africaines figure Mohamed Barrou, coordinateur du comité Palestine-Sénégal. Pour lui, il était temps que la guerre s'arrête. Essayons de l'écouter.
Oh,
akor yimbe fof no famno ko nyaange nge wawa burde boyde ni yimbe fof no famno kadi so changement.
Que dit-il, Timbi?
Mahmoud Barrow indique que c'était évident que cette guerre qu'il juge injuste ne pouvait plus perdurer. L'Israël a fini par céder à la pression internationale accentuée par l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, mais aussi à celle interne qui devenait de plus en plus intense, explique-t-il. Il insiste aussi sur la mobilisation de la communauté internationale pour reconstruire la bande de Gaza, mais la paix ne sera définitive dans cette région que quand la solution à deux États est effective, conclut Mahmoud Barrow.
Anastasia, comment maintenant la Russie a-t-elle réagi à cet accord entre Israël et le Hamas?
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a exprimé l'espoir que la conclusion de cet accord contribuera à la formation des conditions nécessaires à l'établissement d'un règlement politique global du problème palestinien. Elle a particulièrement insisté sur le fait que, du point de vue de la Russie, l'objectif final de ce processus est la création d'un État palestinien indépendant dans les frontières 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Elle a également indiqué que le jour de la déclaration de la trêve, les représentants du Hamas, organisation qualifiée de terroriste par l'Union européenne et des États-Unis, ont remercié Moscou pour l'effort constat de la Russie en vue d'assurer les droits légitimes du peuple palestinien. De son côté, le vice-ministre russe des Affaires étrangères s'est entretenu par téléphone avec Moussa Abdou Mazrouk, vice-président du bureau politique du Hamas.
Мы ожидаем, что в их число войдет и находящийся в секторе Газа гражданин России Александр.
Aidez-nous à comprendre.
Elle a également partagé les attentes russes concernant la libération des otages pris par le Hamas. Je lui cite nous nous attendons à ce que le citoyen russe Alexandre Trufanov, ce qui trouve dans la bande de Gaza, en fasse également partie des otages libérés. Nous avons insisté sur la nécessité de son retour rapide dans son pays lors de nos contacts réguliers avec le Hamas.
Et j'ajoute que des délégations officielles du Hamas se sont régulièrement rendues à Moscou, y compris après le 7 octobre, la Russie qui ne reconnaît pas le Hamas comme organisation terroriste.
20 heures à Paris, 20 heures.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Au Bénin, une trentaine de soldats ont été tués le 8 janvier dernier dans la zone dite des Trois Points. C'est près de la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. Une attaque revendiquée quelques jours plus tard par le GNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda. Groupe fortement implanté au Mali, au Burkina, au Niger. Cette attaque interroge sur l'avancée des mouvements djihadistes vers les pays côtiers dont la menace ne faisait l'ombre d'aucun doute. Ibrahima Timbimba, en ligne du Sénégal pour la rédaction Fulfud. Jamais au Bénin une attaque n'avait été aussi meurtrière.
Oui, effectivement, c'est la pire attaque enregistrée dans le pays depuis le début des incursions djihadistes il y a de cela 3 ans. Et même si jusqu'à ce jour, les autorités n'ont fourni aucun bilan, le chef d'état-major de la gendarmerie a annoncé une très lourde perte en indiquant que la base ciblée était l'une des plus fortes et des plus militarisées de l'opération Mirador. Au fait, l'opération Mirador, c'est cette opération qui lutte contre les mouvements djihadistes dans cette partie du pays. D'importants matériels militaires auraient été emportés par les assaillants, d'où certainement ce rappel du colonel Fawzou Gomina à sa troupe, à qui il a indiqué que le matériel seul ne suffit pas pour gagner une guerre. La posture opérationnelle et la qualité des ressources humaines sont la clé pour vaincre cette menace, insiste le patron de la gendarmerie dans une lettre adressée aux officiers et sous-officiers sur le terrain. Une réaction qui ne surprend pas Aliou Dimbo, il est chercheur sur les réseaux djihadistes au nord du Bénin. Pour lui, le lourd bilan d'au moins 30 soldats tués laisse penser que les militaires se sont fait surprendre par les djihadistes, dont une quarantaine aurait été tuée dans l'opération de riposte menée par l'armée. Et la question que tout le monde se pose, c'est d'où viennent ces djihadistes. Aliou Dimbo assure que la plupart ne seraient en tout cas pas béninois. Essayons de l'écouter.
Ah,
que dit Aliou Dimbo Timbi?
Aliou Dembo indique que ces djihadistes sont venus d'ailleurs. Cela est facilement remarquable en écoutant leurs messages et vidéos de propagande circulant sur les réseaux sociaux. Leur accent n'est pas béninois, assure-t-il, avant de préciser que la vaste zone où cette attaque a eu lieu est couverte de savanes et de forêts partagées entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Faudrait juste préciser que, de l'avis de nombreux experts, la dégradation de la situation sécuritaire dans les pays de l'AES, notamment au Mali et au Niger, constitue un danger pour les pays du Golfe de Guinée, dont le Bénin. En réaction à cette attaque, le porte-parole du gouvernement béninois a regretté le manque de collaboration entre son pays et ses États du Sahel dans le combat contre le djihadisme.
Alors, cette attaque au Bénin intervient au moment où les autorités multiplient les initiatives pour empêcher l'implantation de ces groupes djihadistes sur leur territoire.
Oui, elles explorent plusieurs voies pour lutter contre cette insécurité grandissante, à commencer par l'achat d'armes et autres équipements militaires, mais aussi le grossissement des rangs de l'armée à travers des recrutements. L'opération Mirador, par exemple, qui a subi cette attaque, est composée de 3000 hommes, alors que le gouvernement a lancé une vaste opération de recrutement de 5000 soldats supplémentaires. Cotonou a également signé plusieurs accords ces dernières années avec ses partenaires américains et européens, lui permettant d'avoir du matériel militaire moderne.
Mais il n'y a pas que l'option militaire qui est privilégiée.
Oui, en témoigne cette rencontre qui a eu lieu le 27 décembre dernier entre le chef de l'État béninois et des représentants de la communauté Peul, une communauté au sein de laquelle des groupes djihadistes recrutent et qui est souvent victime de stigmatisation et d'abus. À l'issue de cette rencontre, Patrice Talon a annoncé une mission de sensibilisation des agents opérants dans les zones à risque à l'effet d'éviter les amalgames et les abus. Depuis, de nombreuses associations de la communauté Peul, accompagnées des éléments de l'armée, sillonnent les régions touchées par ces attaques pour sensibiliser les citoyens et les troupes déployées sur le terrain. Ces opérations de sensibilisation touchent les zones rouges qui sont situées au nord, au centre et à l'est donc du pays, partie frontalière avec le Burkina Faso, le Niger, le Togo et le Nigeria. Pour Aliou Dembo, cette action de l'État va rassurer la population qui pourrait accompagner l'armée dans sa lutte. Essayons une nouvelle fois de l'écouter.
Quelle est donc son analyse?
Le formateur dans la lutte contre l'extrémisme violent salue cette décision du président Patrice Talon qui, selon lui, va faciliter la coopération entre l'armée et les citoyens. Il indique que depuis cette annonce, de nombreuses voix bien écoutées partent à la rencontre des communautés pour les rassurer, en leur expliquant que toute personne suspecte doit être dénoncée auprès des services de sécurité. Cela va plutôt ramener la confiance entre l'armée et la population, conclut le chercheur Aliou Dembo.
Et Tim Bimba de la rédaction Fufulde de RFI. Avec la rédaction en anglais maintenant, faisons un point sur ce qui se passe au cœur de l'Afrique. En RDC, Mélissa Chemam, la République démocratique du Congo a engagé un procès sans précédent contre le géant de la tech Apple. Ça concerne le trafic de minerais, notamment les métaux précieux.
Oui, tout à fait. Nous avons produit une série d'articles et de podcasts sur le sujet, car c'est quand même inédit. L'entreprise assure qu'elle n'utilise plus ces fameux minerais issus des conflits, notamment entre la RDC et le Rwanda. Mais les experts se demandent si le procès peut véritablement changer cette exploitation qui dure quand même depuis des années. Donc, j'ai interviewé un ancien expert de l'ONU. Il s'appelle Gregory Mtumbu-Salter. Il est britannique, mais basé en Afrique du Sud.
The Congolese government is within its rights to bring this case. There's an arguable case that Congolese coltan is being smuggled into Rwanda.
Que vous a-t-il donc raconté?
Il nous dit que c'est évident que le gouvernement congolais a le droit de porter plainte dans cette affaire. Il y a vraiment une base plausible sur cette exploitation, notamment en ce qui concerne le coltan. Ils sont introduits clandestinement au Rwanda et ensuite bénéficient au M23, une rébellion soutenue par le Rwanda. Le M23 est sanctionné et soutenir ce groupe constitue une violation des sanctions de l'ONU. Le gouvernement congolais affirme donc qu'Apple et par extension d'autres acheteurs doivent contribuer à l'amélioration de cette situation.
Et il parle aussi de Global Witness qui a publié en 2022 un rapport décrivant ce système de traçabilité.
C'est ça, et c'est une des clés donc du sujet, parce qu'en fait, ce qui a été mis en place pour lutter contre l'exploitation est devenu une forme de blanchisseuse, c'est-à-dire qu'au lieu de montrer quand il y a une exploitation, en fait, le système sert à faire passer ces minerais dans un pays tiers et notamment le Rwanda.
Que faut-il s'attendre désormais ?
Alors, c'est vrai que l'expert nous dit que le cas est unique, mais pour apporter une avancée majeure, il faudrait quand même des changements concrets sur le terrain et il revient en détail sur le contexte.
Écoutons-le.
When we made this recommendation on the UN group of experts about due diligence, we never thought this would stop the conflict.
Alors, Grégory, Madame Selter pense quoi?
Alors, ce qu'ils nous rappellent, c'est qu'en fait, eux, le groupe d'experts de l'ONU a émis plusieurs rapports et leurs recommandations, lorsqu'ils les ont formulées, concernaient notamment la vérification renforcée de ce trafic de minéraux. Et ils précisent qu'ils n'ont jamais pensé que ce genre de rapport ou d'explication permettrait à eux seuls de mettre fin au conflit. Les acteurs du conflit se battent pour les minerais, parfois, mais souvent ils se battent pour d'autres choses, notamment la terre, et ils financent généralement leurs actions à travers différentes taxes, par exemple sur les marchés locaux, sur les populations, sur le charbon de bois. Donc on peut améliorer ce trafic de minerais, mais on ne peut pas forcément espérer que juste l'organisation internationale de ce trafic mette fin au conflit.
Mélissa Chemam de la rédaction en anglais, et donc on retrouve ces podcasts sur le site internet.
Sur notre site, exactement.
Merci à vous. Aujourd'hui, Moscou et Téhéran ont signé un accord de partenariat stratégique. Anastasia Spirenkova, pardonnez-moi, de la rédaction russe, voyons avec vous en quoi cela est important. Tout d'abord, dressons un état des lieux. Quel est l'historique des accords entre la Russie et l'Iran ?
Alors, cette année, nous sommes à un point où le premier accord entre Moscou et Téhéran, signé en 2001, est arrivé à son terme. Cet ancien accord sur les fondements des relations mutuelles et les principes de la coopération entre la République islamique de l'Iran et la Fédération de Russie était prévu initialement pour 10 ans, mais a été prolongé 3 fois, chaque fois pour 5 ans. Le nouveau accord de partenariat stratégique global que deux pays viennent de signer aujourd'hui consolidera et approfondira les relations entre deux pays. Le président iranien Massoud Pezeshkian est arrivé aujourd'hui en visite officielle à Moscou, où il était reçu d'abord par le ministre russe de l'énergie Sergei Tsvilov et par vice-ministre russe des affaires étrangères Andrei Rudenko. Ensuite, Massoud Pezeshkian a été accueilli par le premier ministre russe Mikhail Mishustin dans le siège du gouvernement russe. Cette dernière a souligné que le chiffre d'affaires commercial entre deux pays avait augmenté de 17% en 2024. Le premier ministre russe a également déclaré que la Russie et l'Iran travaillent activement dans les secteurs des transports et de l'énergie et qu'ils développent leur coopération, celui dans l'éducation. Les deux pays sont unis par le fait qu'ils sont sous le coup des sanctions internationales fortes et que leur économie dépendant fortement des exportations d'énergie.
Cela dit, Iran et Russie ont malgré tout des désaccords, hein, surtout après la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie.
Exactement. D'après les déclarations du général Behrouz Esbati du corps des gardiens de la révolution iranienne, la chute du régime d'Assad a été un coup très dur pour Téhéran. Dans le même temps, la Russie et l'Iran tentent de se rejeter la responsabilité de la situation actuelle. Ainsi, fin décembre, Vladimir Poutine a déclaré lors de la conférence de presse annuelle finale que Moscou avait aidé Téhéran à évacuer de Syrie 4000 militaires iraniens et les combattants des milices chiites pro-iraniens.
Alors, quels sont les domaines dans lesquels Moscou et Téhéran souhaitent renforcer leur coopération et ceux pour lesquels ils essaient de ne pas rendre public leur collaboration?
Voici les domaines que Poutine a mentionnés avant la signature de l'accord. Il a souligné que la visite du président iranien aujourd'hui prenait une importance particulière. Il a notamment mentionné que deux pays poursuivent leurs grands projets, notamment dans le domaine de l'énergie nucléaire, dans le secteur de l'énergie et de la logistique. M. Poutine a également indiqué que les deux pays discuteront de la situation internationale dans le monde et au Moyen-Orient. Ce qui reste dans les coulisses des négociations officielles, ce sont les achats d'armes iraniens par la Russie que Moscou utilise pour frapper l'Ukraine. Comme l'a écrit Bloomberg fin décembre, le fils du conseiller d'Ayatollah Khamenei joue un rôle clé dans les livraisons d'armes à la Russie via la mer Caspienne.
Et que constatent les parties les uns les autres à l'issue de ces négociations et la signature de cet accord ?
L'accord a été signé au Kremlin juste avant notre émission en direct pour une durée de 20 ans avec prolongation automatique pour des périodes ultérieures de 5 ans. Vladimir Poutine a déjà qualifié ce document de percé. Le président russe note que le nouvel accord entre la Russie et l'Iran fixe des tâches ambitieuses. Parmi les principaux points de l'accord, c'est le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense, le renforcement de la coopération entre les services secrets.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cet accord qui a été conclu, vous le rappeliez, il y a de cela quelques heures, ce vendredi 17 janvier 2025. Anastasia Spirenkova de la rédaction russe, c'était Accent du Monde sur RFI.